C'est ludique, 9h30, 10h.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est ludique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu expert qui est sorti au mois d'avril, mais qui est de nouveau disponible, qui s'appelle Revive. On retrouvera aussi Copla en fin d'émission pour On y rejoue. Alors, est-ce qu'on y rejoue aux animaux de Baker Street? Et tout de suite, eh bien, c'est Jonathan du magasin Terre de Jeux à Rennes pour Dans le Rétro. Salut Jonathan.
Salut Mathieu, salut à tous.
Et aujourd'hui, on va parler de jeux experts, Jonathan.
Ben oui, je me suis dit que j'allais te suivre sur le jeu expert. Alors quand tu m'as dit ça l'autre jour, j'ai fait un petit tour dans le rayon gestion du magasin.
Ouais.
En disant, ben voilà, qu'est-ce qui a pu me marquer ces dernières années. Donc il y a pas mal de choses, hein, effectivement, dans le jeu de gestion qui sont assez marquantes. Mais du coup, je voulais vous parler de deux jeux qui sont assez particuliers, qui m'ont beaucoup marqué ces dernières années. Donc c'est deux jeux de Friedman Friese. Donc c'est un auteur, moi, que j'aime beaucoup, voilà, c'est l'auteur qui est connu pour tout faire en vert, hein. Il a sa coupe de cheveux qui est verte et tous ses
oui.
jeux sont tout verts avec plein de F dans les titres des jeux et même dans la description des thématiques en général est bourré de F partout. Donc les deux jeux de cet auteur qui m'ont marqué ces dernières années, c'est Firehaven et Futuropia. Alors en général, Friedman Friese, il y a vraiment dans chacune de ses œuvres une mécanique assez forte qui change, qui apporte quelque chose de très neuf dans le jeu de société. Et là, la différence, c'est que c'est surtout d'un point de vue thématique qu'il a apporté quelque chose.
Ouais.
Alors, ça paraît un peu bête comme ça, mais c'est des jeux avec un propos, des jeux de gestion avec un thème qui est présent, une réflexion. Moi, ce que je trouve très rare dans le jeu de société. Donc, pour une fois, on va avoir un jeu de gestion à l'allemande. On va pas devoir construire une ville européenne ou bâtir des pyramides.
Ouais.
Mais il va y avoir un thème fort et engagé. Donc dans Firehaven, alors là le thème est très clair d'entrée de jeu, on est sur la lutte ouvrière. On va chacun gérer une équipe d'ouvriers. On est sur du coup de la pause d'ouvriers en toute logique, et on va la gérer pendant leur temps libre, pendant le temps où ils ne travaillent pas.
D'accord.
On va essayer de leur faire profiter un maximum de leurs loisirs et en même temps participer à la lutte ouvrière pour essayer d'améliorer les conditions de travail de notre équipe. Plus on améliorera les conditions de travail, et ben plus on se développera et on aura de nouvelles capacités et on pourra faire plus de choses pendant le temps libre. Donc le propos est assez clair, hein, les pistes de développement qu'on va avoir, c'est pouvoir réduire le temps de travail, augmenter le temps de vacances, réduire l'inégalité des salaires entre les hommes et les femmes, donc plein de choses comme ça. Et il y a toujours un petit côté un peu drôle et cynique, voilà, sur les loisirs qui sont possibles. Donc un thème qui est assez fort et puis avec un propos très engagé.
Mmh.
Et mécaniquement, c'est assez intéressant. C'est une pause d'ouvrier où une fois que vos ouvriers n'ont plus de temps disponible, et vous allez devoir tous les retirer du plateau et faire votre phase de ils doivent retourner à l'usine.
D'accord.
Pour gagner de l'argent. Et du coup, ça libère plein d'emplacements pour vos adversaires. Donc il y a une notion de tempo comme ça, avec jamais de phase de fin de jeu, qui rend le jeu très intéressant à jouer malgré sa simplicité.
Et ça, c'est sorti quand, alors ?
Alors ça, je crois que c'est sorti peut-être en 2020.
D'accord.
Et qui m'avait encore plus marqué, c'était Futuropia, qui a dû sortir un an ou deux plus tôt. Donc là, on est vraiment sur un jeu de gestion. On va construire son petit boui-boui devant soi à l'instar d'un Agricola.
D'accord.
Là, chaque joueur va devoir développer son village. Donc on va construire sa petite ville, essayer d'accueillir un maximum d'habitants dans son village et faire en sorte que ses habitants travaillent le moins possible et profitent d'un maximum de leurs loisirs. Donc ça, c'est assez chouette. On va donc construire des bâtiments pour accueillir ses habitants, construire des machines qui vont produire, alors il y a deux ressources dans le jeu qui est la nourriture et l'énergie, et aussi construire des robots qui vont travailler à la place des êtres humains. Donc ce jeu, je le trouve encore d'autant plus d'actualité, parce que le propos étant de dire que ces machines doivent plutôt servir à faire les basses besognes pour que les êtres humains profitent d'un maximum de leurs loisirs.
Ouais.
Et pas que les machines doivent faire des dessins à notre place. Donc voilà, propos qui est, moi je trouve très très fort, hein, vos points de victoire à la fin de la partie, c'est le nombre d'habitants qui ne travaillent pas. Donc propos très très engagé. Et du coup, je me suis dit que j'allais parler de ces deux jeux-là aussi, parce que suite à ça, la ludographie de Friedman Friese a été primée au festival Rennes en jeu en 2022.
D'accord.
Reçu le prix du jury, qui s'appelle maintenant le prix Lizzie Maggie, en référence à l'autrice du Monopoly. Et du coup, c'est un prix, moi, que j'aime beaucoup, parce qu'il essaye de primer pas forcément l'aspect loisir ou consommation du jeu de société, mais vraiment des œuvres qui ont quelque chose à dire, qui apportent quelque chose d'un point de vue culturel.
Ouais.
Et du coup, ils ont récompensé la ludographie de Friedman Friese, entre autres, à travers ces deux jeux-là, pour le côté propos engagé à travers un jeu de société, ce qui est Bah, très rare, hein. C'est pas souvent qu'on a des jeux comme ça qui arrivent en boutique.
Okay, ouais. Rennes en jeu d'ailleurs, j'ai vu l'affiche, hein, ça arrive bientôt ça.
Eh bien oui, ce sera le 3 et 4 février donc 2024, et toujours au couvent des Jacobins, un lieu qui est vraiment magnifique. Donc c'est l'événement à pas louper à Rennes.
Et bien sûr, tu seras présent, Jonathan.
Oui, avec Terre de Jeux, on sera présent à Rennes en jeu, carrément.
Merci beaucoup, Jonathan.
Merci, Mathieu.
Et puis on se retrouve bien la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, salut à tous.
Salut.
C'est Ludique, 9h30, 10h, la seule émission quotidienne qui te parle de jeux à la radio.
Votre objectif aujourd'hui est de devenir un survivant dans un monde post-apocalyptique. Vous incarnez l'une des factions de survivants luttant pour renouveler la technologie tout en explorant la planète gelée, tout en essayant de survivre. L'Atlas fond, la nature reprend vie, nous aussi. L'objectif est de repeupler et reconstruire le monde afin de gagner le plus de points. Voici Revive, un jeu de Christian Amundsen, Anna Wermundland, Elif Svensson, Elje Mersenke, que nous propose en France Matago. Alors ce jeu expert se compose d'un plateau principal qui représente une planète, hein, d'un plateau de joueurs double couche technologique et d'un plateau de factions. Oui, il faut de la place sur la table, c'est sûr. Il y a un gouffre central au centre qui sert de point de départ à l'exploration. Le plateau est recouvert de différentes tuiles. Il faut essayer d'atteindre l'un des quatre coins de la carte pour scorer encore plus. Il y a également des récompenses sur la piste de score et sur la piste d'hibernation. Tous les deux se trouvent sur le plateau principal. Il existe 6 factions dans Revive, chacune ayant une version de base et avancée. Vous pouvez d'ailleurs faire la campagne une fois que vous maîtrisez le jeu. En attendant, vous n'ouvrez pas le paquet de cartes où c'est marqué ne pas ouvrir. Le plateau de joueurs se compose de meeple, votre population, et de petits et grands bâtiments représentant les factions que vous avez choisies. Le plateau de jeu technologie comporte plusieurs emplacements pour contenir les cartes, dont 2 au-dessus du plateau, 1 sur le côté et 2 en dessous. Ils peuvent tous être personnalisés avec des modules que vous obtiendrez. Dans la partie centrale du plateau de jeu, 3 chemins machines recouverts par des jetons progrès sont connectés les uns aux autres. Il va falloir donc progresser sur ces pistes. Alors pour commencer, chaque joueur, chaque faction dispose d'un jeu de 6 cartes identiques. Citoyen, vous pourrez en acquérir d'autres. Chaque faction possède quelques pouvoirs uniques et d'une carte artefact pour marquer des points en fin de partie selon le nombre d'artefacts que vous allez récupérer. Il y a 3 couleurs, orange, gris et violet. Le jeu se termine lorsque le dernier artefact majeur est réclamé et le gagnant est le joueur avec le plus de points de victoire, tout simplement. Alors à votre tour, vous pouvez faire 2 actions, identiques ou différentes, ou hiberner. Alors si vous hibernez, vous n'allez pas faire grand-chose, ça c'est sûr, mais on va y revenir. Vous pouvez décider de jouer une carte. Sur les cartes, il y a des icônes en haut et en bas des cartes que vous pouvez utiliser pour collecter des ressources ou effectuer d'autres actions, en suivant les icônes comme ajouter un module. Il existe 3 ressources de base, l'engrenage qui est utilisé pour construire des maisons, les livres qui sont utilisés pour localiser la population et explorer, et la nourriture qui est utilisée pour le déplacement et l'exploration. Il existe une 4e ressource, le cristal, une ressource un petit peu bonus. Les ressources ont un suivi sur le tableau technologique de chaque joueur, et ça c'est super pratique. Autre action, la plus simple à expliquer, c'est l'interrupteur. Si vous le basculez, vous choisissez la ressource de votre choix, mais cet interrupteur aura un rôle un petit peu plus intéressant dans le mode de campagne. Parmi les autres actions, vous allez pouvoir explorer le plateau central en partant toujours d'un de vos bâtiments, d'un pion population ou du gouffre. Vous souhaitez explorer une tuile à votre portée, vous payez ce qui est indiqué dessus, puis payez la portée en nourriture. Un conseil, n'explorez pas si vous ne pouvez pas vous déplacer, sinon les autres joueurs vous remercieront parce qu'ils viendront explorer. L'une des actions possibles est de repeupler. Il faudra payer en livres pour récupérer son pion population sur son plateau. On choisit toujours le pion le plus bas. N'oubliez pas non plus de payer la nourriture pour la porter. Petite précision aussi, vous pouvez repeupler même s'il y a déjà un pion adverse. De présent, il faudra juste lui donner un livre. Enfin, après avoir exploré, repeuplé, il faut reconstruire. Et là, c'est le même principe. Vous allez choisir une case sable à votre portée. Et chaque case que vous traversez, vous payez une nourriture. Et vous payez 3 ou 5 engrenages pour poser l'un de vos bâtiments. Et c'est en construisant que vous allez pouvoir enlever les jetons projet sur votre plateau machine. Car si votre bâtiment est adjacent à une forêt, vous avancez sur la piste verte. S'il est adjacent à un champ, on avance sur la piste jaune. Pour la montagne, c'est la piste grise. Par exemple, si vous construisez sur le plateau central un bâtiment à côté d'un hexagone vert et de 2 hexagones jaunes, vous progresserez une fois dans votre chemin machine vert et 2 fois dans votre chemin jaune. Au fur et à mesure de votre progression, vous débloquerez une technologie qui pourra être utilisée si vous dépensez un marqueur d'énergie. Les technologies peuvent être assez sympas. Les bâtiments coûtent 2 équipements de moins, la portée coûte moins cher, gagner des caisses qui vous offrent aussi des bonus, il y a énormément. Mais attention, vous ne pouvez activer une technologie que si vous disposez d'un jeton d'énergie inutilisé. Et vous ne pouvez activer cette technologie qu'une seule fois. N'oubliez pas que tous les jetons progrès des machines, mais aussi du plateau faction, une fois débloqués, eh bien vous les placez sur la piste progrès, qui vous rapportera des points en fin de partie. Tout ça s'enchaîne très très bien. Si votre bâtiment est adjacent aussi à un lac, eh bien vous gagnez le bonus indiqué. Vous ne souhaitez faire aucune action. Vous pouvez donc dans ce cas hiberner pour récupérer les cartes de votre défausse, récupérer les jetons énergie, avancer sur la piste hibernation et récupérer votre bonus, puis enfin relever votre interrupteur. La partie s'arrête dès que le dernier grand artefact est pris. Ces artefacts, vous pourrez les gagner sur vos machines notamment, mais aussi sur votre plateau personnel. On calculera leurs points en fonction de votre carte objectif du début. Exemple, votre carte dit que l'artefact violet vous donne un point par jeton énergie. Si vous avez deux artefacts violets, eh bien ça vous fera 3 points par jeton énergie. Il faut bien regarder votre carte objectif artefact pour voir dans quelle direction aller et quoi privilégier. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte pour le scoring final. Celui avec le plus de points l'emporte. Il existe aussi un mode solo que je vous laisserai découvrir. Et bien sûr, je n'en dirai pas plus sur la campagne en 5 chapitres qui va rajouter des choses au fur et à mesure que vous allez la débloquer. Revive est un jeu de stratégie intéressant avec de nombreux mécanismes, beaucoup de façons pour marquer des points. Dans ce jeu, deux actions à chaque tour, mais de nombreuses possibilités. L'aspect d'exploration du jeu est vraiment intéressant, même si c'est pas forcément la mécanique principale du jeu. Je n'ai pas encore fini la campagne, mais il y a des petits plus, ça marche à deux joueurs, même s'il y a moins d'exploration forcément qu'à 3 ou 4. Grosse rejouabilité, l'un des top dans sa catégorie cette année.
C'est ludique, des jeux et des hits. La vie serait tellement triste sans jouer. C'est ludique, 9h30, 10h.
Mais est-ce qu'on y rejoue au jeu un an après? Copla, bonjour.
Bonjour, et oui, quelle bonne question le grand matin.
Et oui, alors déjà l'année dernière, j'avais présenté quoi à cette période?
Alors, l'année passée, semaine 47, Matt nous parlait de Times of Empire, Tokaido Duo, Aurignac, Valbara et les animaux de Baker Street.
Et tu as choisi quel jeu?
Eh bien, dans cette liste, j'ai choisi de vous parler des animaux de Baker Street, justement.
Un jeu narratif.
Exactement. Alors, c'est un jeu de Dave Neal et Clémentine Beauvais, illustré par Biboun et édité par Yellow. Donc, comme tu le dis, en effet, c'est un jeu coopératif et narratif dans lequel vous enquêtez donc sur une série de mystères dans un Londres victorien du 19e siècle. Et qui dit Londres au 19e siècle dit bien souvent Sherlock Holmes.
Mais oui.
Donc, les animaux de Baker Street ne dérogent pas à cette règle, mais bon, en même temps, vous aviez déjà un bel indice dans le titre. comme le jeu s'adresse plutôt à une cible familiale, voire même enfantine, vous ne jouez pas Sherlock, mais plutôt de jolis petits animaux qui sont des proches de Sherlock. Alors bon, joli, on a quand même une tarentule dans l'eau,
Si
techniquement, elle a plutôt un joli minois, qui a sans doute été dessiné dans le but de casser cette image d'animal terrifiant. Ça reste quand même le perso le plus agressif, clairement pas le plus sympathique de l'histoire.
C'est clair.
Bon. Alors donc certes elle est de votre côté, mais il faudrait peut-être pas trop la chercher non plus. Bref, pour progresser dans les différentes enquêtes, vous aurez à utiliser donc les capacités de 4 animaux, 4 protagonistes de l'histoire. Donc on a, comme on vient de le dire, cette tarentule, pour tout ce qui va demander de la force, de la ténacité. La souris, pour son sens de l'observation. Je disais qu'elle pouvait se faufiler et repérer jusqu'au moindre détail qu'on aurait pu louper. Il y a également l'oiseau, qui est lui rapide et discret, mais surtout qui sait voler.
Ben oui.
On a enfin la grenouille, qui est un petit peu le beau parleur de la bande et qui sera très bon pour tout ce qui sera de l'ordre de la négociation. Alors, à vous de voir, selon la situation à laquelle vous faites face, le personnage qui vous semble le plus adéquat. Donc ce petit groupe, vous l'emmenez visiter des lieux sur un plateau de jeu. Vous tentez d'interagir avec les différents témoins que vous rencontrez. Et pour ça, vous manipulez des cartes, donc ce sont de très grandes cartes. Il y en a donc une pour chacun de ces personnages, mais aussi pour ces fameux lieux, indices, objets que vous êtes amenés à trouver. Et vous devez en fait faire coïncider ces cartes entre elles pour débloquer de nouvelles choses. Voilà, donc si les symboles sur vos deux cartes s'alignent parfaitement, vous aurez une connexion et vous faites avancer le scénario de cette manière. Alors, il y a un très très beau travail d'écriture derrière les animaux de Baker Street. Donc c'est celui, je l'ai dit au début, de Dave Neal, qui est un inconditionnel de l'œuvre de Sherlock Holmes. Il est notamment derrière certains des Sherlock Holmes détectives conseils. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez cette gamme-là, mais c'est, voilà, pour les adultes, c'est vraiment génial. Ou encore les aventures Sherlock Holmes des célèbres Unlock. C'est lui aussi qui est derrière tout ça. Et donc, on a aussi Clémentine Beauvais, qui est en fait autrice et traductrice. Elle a écrit beaucoup de choses pour les enfants. Elle a remporté plusieurs prix en littérature jeunesse. Et elle est aussi enseignante-chercheuse en sociologie et philosophie de l'enfance. Hein, donc clairement, c'est son credo.
Ouais.
Et pour la petite anecdote, c'est elle qui a traduit en français L'Icabog, le roman pour enfants de J.K. Rowling.
D'accord, ok.
Voilà.
Ah ben on apprend donc, plein de choses avec toi.
Et n'est-ce pas, hein. Donc ce duo, il donne une véritable force à la narration et donc à l'immersion dans Les Animaux de Baker Street. On est finalement sur quelque chose qui se rapproche presque plus d'une histoire slash aventure ludique. Mm. Donc c'est vraiment très chouette. On peut justement lui reprocher un côté un petit peu trop enfantin. Alors c'est vrai que moi, pour le coup, j'y ai joué en solo et j'avoue avoir dû me forcer à terminer les 7 enquêtes histoire de me dire « Allez, je suis arrivée au bout, j'ai la fin de l'histoire ». C'était un petit peu un effort parce que les énigmes restent quand même assez simples,
oui.
C'est très logique, peut-être un peu répétitif et on est vraiment guidé. Donc on ne se pose pas vraiment les ménages à mon âge. Donc pour terminer la question, un an après, est-ce qu'on y rejoue ou pas ? Alors, étant donné que la cible est clairement une cible plutôt familiale, même si moi, je n'ai pas été absolument emballée, je pense qu'il correspond à beaucoup de familles. Et j'imagine de très chouettes moments de partage entre parents et enfants.
Mmh.
Et donc, c'est pour
très
ça que
belle
je vais
histoire,
dire
ouais.
Oui. Exactement. Donc, dans la mesure du possible, évidemment, on y rejoue, puisqu'il s'agit évidemment d'un jeu d'enquête. Hein, donc, une fois que c'est fait, c'est fait.
Bah oui.
Mais... aujourd'hui encore, je pense qu'on peut l'acheter et se plonger dedans. Il n'est pas du tout passé ou démodé et mérite encore sa place parmi les jeux d'enquête pour enfants.
Pour enfants.
Alors,
je ne dirais pas pour enfants, moi. Je dirais pour famille. Parce que,
pour famille,
parce que
exactement.
Les enfants, c'est quand même à partir de, on va dire, de 7-8 ans, hein, pas avant.
Oui,
hein.
Oui. Justement, j'allais venir sur ce point-là. J'allais dire, bon, pas sûr que le petit Léo, du haut de ses 8-10 ans, soit archi fan de Sherlock Holmes. Hein.
Non.
Mais par contre, sa maman, elle sera toute contente de partager ce moment avec son fils-son.
Exactement.
Et aimera sans doute se remémorer le loufoque brillant mais incroyablement charismatique Robert Downey Jr., un des meilleurs interprètes de Sherlock Holmes à ce jour.
Voilà. Non, parce que c'est vrai que les enfants, bon, vers 7-8 ans, bon, des fois c'est un peu long la narration pour toute l'histoire.
Tout à fait.
Mais ça marche très bien. Après, les énigmes, ils comprennent très bien comment ça fonctionne. Je dirais 10 ans, c'est bien. 10 ans pour jouer avec les enfants, c'est bien.
Voilà, exactement. C'est clairement, je pense, son objectif. C'est rassembler une famille autour d'un jeu d'enquête avec voilà, un personnage quand même que je pense on a besoin de connaître dans sa vie, ne serait-ce que pour la culture générale. Et donc, toutes ces histoires voilà, font vraiment un moment de partage vraiment très chouette en famille, ça j'en suis persuadée.
Mais si vous avez des enfants de 5 ans et que vous voyez la belle boîte avec les animaux et tout ça, non, jouez pas à ça avec eux.
C'est très attirante cette boîte d'ailleurs. Oui, oui.
Donc,
le travail d'illustration également. Il me semble d'ailleurs qu'il a été sélectionné par le GBL, donc le groupement des boutiques ludiques cette année. Pour justement son travail d'illustration également. C'est vrai que les personnages, donc non seulement la structure narrative est vraiment très, très chouette et très bien écrite, mais visuellement, on a aussi, voilà, on est dedans, on s'imagine très bien tous ces petits personnages, cette ruelle, enfin, vraiment, pour le coup, il y a un très beau travail éditorial derrière ce jeu.
Eh ben super, merci beaucoup,
voilà.
Copla.
Avec grand plaisir.
On se retrouve dans 15 jours, puisque la semaine prochaine, c'est une spéciale Kaori, avec l'illustrateur Jérémy Fleury. Justement, on va parler d'illustration la semaine prochaine.
Eh bien, bel enchaînement, encore une fois.
Ouais, merci. Très bonne
merci
journée.
Beaucoup.
Salut, Copla.
À bientôt.